Le huitième soleil par Richard Keller, chapitre 40. Les événements se précipitèrent. Sagol et Gilles décidèrent de se rendre en Savoie et de se joindre aux enquêteurs locaux. Ils avaient pris le temps de réfléchir aux rebondissements de ces derniers jours. Peu à peu, ils avaient reconstitué des bribes de vie qui les amenaient vers le dénouement, du moins l'espéraient-ils. Élucider les affaires et retourner à Venise, tel était le credo des deux complices. Sagol s'était longuement entretenu avec ses homologues vénitiens, et notamment le commandant Litchi. Le responsable transalpin de l'enquête avançait bien lui aussi. Il venait de retrouver Laurent Bischoff et son ami. Il séjournait dans une clinique de Mestre depuis le jour du meurtre d'Isabelle Rivet. Son état de santé s'était aggravé, au point de déterminer son compagnon à quitter l'hôtel luxueux où il résidait pour un établissement hospitalier. Le sida faisait des ravages dans la communauté homosexuelle. Et Jeff Lorine se soumettait lui aussi à une lourde et astreignante thérapie. Il ne pouvait pas avoir assassiné la geisha, car cela surpassait largement leurs forces. Sagol transmit à Litchi les nouveaux éléments de l'enquête, et notamment les similitudes entre les meurtres des deux Isabelle. La corrélation entre les domaines professionnels des deux jeunes femmes interpella l'Italien. Les Français progressaient également dans ce sens. Il fallait découvrir l'origine de tels choix de la part du meurtrier. Gilles ne partageait pas cet avis. Il penchait pour le hasard d'une rencontre et non pour une démarche délibérée. Un acte réfléchi nécessitait une minutieuse préparation et aucun élément ne permettait de l'affirmer dans le cas présent. Le présumé coupable agissait probablement seul, car les gendarmes ne possédaient pas d'indices prouvant une quelconque complicité. Par ailleurs, le commandant Litchi leur révéla qu'un de ses collaborateurs venait de découvrir l'hôtel où avait séjourné la Colombine aux boules de geisha. La pension Diavolo portait bien son nom. La deuxième équipe qui recherchait le lieu de séjour de la victime avait fait mouche. Une langue s'était déliée. Un garçon d'étage s'était souvenu d'une belle jeune femme blonde qui lui avait ouvert dans le plus simple appareil et qui portait comme unique parure un loup noir. Il n'avait donc pu distinguer son visage ni celui de son compagnon, déguisé en arlequin, qui était également masqué. Les policiers avaient consulté les registres de l'hôtel et ils avaient noté que les frais de séjour devaient être adressés à une société de production audiovisuelle parisienne. La boucle était bouclée. Gilles demanda si les fins limiers vénitiens avaient pu effectuer des prélèvements. Litchi arrassa un sourire aux deux Français. Deux verres et une bouteille de champagne avaient pu être récupérés in extremis. Les résultats d'ADN, qui devaient arriver dans les minutes à venir, pourraient confirmer l'intime conviction des enquêteurs. Sagol pianota sur son ordinateur afin de transmettre les analyses génétiques d'Isabelle Rivet et de Rodrigue Bonifay à ses collègues de la Lagune. Les deux gendarmes se rendirent en Savoie en voiture. Le train s'avérait plus rapide, mais ils voulaient une totale liberté de mouvement. Durant le trajet, ils se remémorèrent le dossier. Ils discutèrent sans discontinuer, et les kilomètres défilèrent. Le retour sur le lieu qui avait vu naître leur amitié complice les réjouissait. Ils possédaient tellement de souvenirs communs, des moments d'intense bonheur ou d'infinie tristesse. Ils prenaient tout comme un superbe cadeau de la vie et espéraient en parler ensemble avec autant de passion et d'émotion pendant encore de nombreuses années. Les deux dossiers semblaient étroitement liés et ils attendaient beaucoup de leur séjour savoyard. Ils se préparaient à examiner à la loupe les derniers mois d'Isabelle Malardeau. Gilles gara la berline Peugeot dans la cour de la brigade. Un sentiment étrange et indéfinissable gagna les deux hommes, comme s'ils rendaient visite à un vieil ami qu'ils auraient quitté la veille. L'adjudant Riffard les accueillit devant l'entrée. Sagol l'avait prévenu après avoir passé le péage de la Motte-Servolex. Les deux gendarmes, précédés de leurs collègues, se dirigèrent vers leur ancien bureau. Ils ne constatèrent pas de changement entre l'époque de Sagol et celle de Riffard, hormis deux posters de dunes africaines. Ils échangèrent leurs renseignements et leurs points de vue sur les deux affaires. Le Savoyard leur apporta des informations détaillées sur le dossier d'Isabelle Malardeau. Gilles et Sagol procédèrent de même quant à celui d'Isabelle Rivet. Il fut convenu que dans un premier temps, les deux gendarmes enquêteraient de leur côté et qu'ils se retrouveraient chaque matin pour un débriefing. Les enquêteurs se rendirent ensuite à l'hôtel du lac pour y déposer leurs valises et se rafraîchir avant de rallier le hameau où résidait la dernière victime. Cet établissement, comme son nom le laissait supposer, se trouvait dans les environs du lac du Bourget. Il dominait la contrée et la vue depuis les chambres enchanta les deux hommes. La chance leur avait souri, car ils auraient dû loger à la caserne. Cependant, les studios habituellement attribués au personnel de passage faisaient l'objet de travaux de réfection. Ils avaient apprécié ce petit impondérable. Le soleil transperçait quelques nappes de brume qui recouvraient le lac, et le contraste donnait au paysage un aspect surréaliste. 10 minutes plus tard, ils se retrouvèrent sur la route en direction du dernier domicile d'Isabelle Malardeau. Gilles avait pris le volant et Sagol savourait pleinement cette escapade dans l'avant-pays. Cela lui rappelait quelques épisodes alors qu'il enquêtait avec son ami sur des crimes dans la région. Le printemps pointait son nez. Il offrait ses senteurs de sous-bois au travers de la vitre légèrement baissée et Sagol entendait la rivière chanter à travers les rapides. L'arrivée d'un véhicule de gendarmerie dans le hameau ne passa pas inaperçue. Malgré le nombre restreint d'habitants, les deux hommes rencontrèrent quelques autochtones. Les langues commencèrent à se délier et l'accent chantant de Sagol fit le reste. Madame Mirkovic se lâcha et cracha tout son venin. Elle demeurait à une centaine de mètres d'Isabelle et devait souvent se cacher derrière ses rideaux pour guetter le moindre geste de sa voisine. Maria Mirkovic épiait tout le monde depuis son veuvage. Son mari, un ancien mineur, avait succombé une quinzaine d'années auparavant à la silicose. Chaque anniversaire de sa mort augmentait sa rancœur envers les autres, surtout les jeunes. La jolie blonde n'avait pas échappé à sa vindicte. Elle avait vu un certain nombre de choses qui ne lui plaisaient pas et elle s'empressa de les révéler aux deux gendarmes. Elle jalousait par-dessus tout ce que représentait Isabelle. Elle exécrait sa jeunesse, sa beauté et sa réussite. Elle parla beaucoup, et les deux enquêteurs perçurent toute cette solitude passée à espionner son prochain. Cet isolement, depuis la disparition de son époux, l'avait rendu acariâtre. Parmi le lot de révélations de Madame Mirkovic, une retint l'attention du lieutenant Gilles. La revêche voisine évoqua la période où Isabelle Malardeau avait vécu avec un jeune homme, un certain Patrick. Elle prétendit que l'animatrice l'avait entraîné dans un univers de débauche et qu'il avait dû trafiquer dans des affaires louches pour boucler les fins de mois. Une constatation s'imposa. La veuve détestait la victime et préférait son compagnon. Les déclarations de Madame Mirkovic confirmèrent l'article de journal découvert par les premiers gendarmes dans la maison de la défunte. Gilles lui demanda si elle avait vu quelque chose d'inhabituel ces derniers jours. Elle déclara qu'un soir de la semaine précédente, elle avait entendu jouer divinement du piano et qu'elle avait distingué des ombres par la fenêtre. Elle avait pensé qu'Isabelle devait se trouver en galante compagnie cette nuit-là. Elle ne put éclairer davantage les deux hommes.